Pirata Miranda.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Gatrakawe. C'est le moment de la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Dans ce journal des journaux, nous revenons sur les grandes informations qui ont marqué la semaine. À la présentation, vous serez avec Joséphine Johnson-Zemana. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. On vous le disait en début de cette semaine, sept candidats militaires commando ont trouvé la mort pendant une formation commando qui avait débuté le 26 décembre 2021 à Gitega. La mort de ces hommes serait liée à des bastonnades faites par leurs instructeurs. Conséquence, ces exercices commando étaient suspendus depuis plus d'une semaine. Les militaires de Gitega demandent à la hiérarchie de bien suivre ce qui se passe au centre d'instruction commando de Gitega. Plus de détails avec Georges Nimenya.
Cet entraînement commando a débuté la dernière semaine de l'an 2021 au lendemain de la journée de Noël, le 26 décembre 2021. Dans une semaine de formation, sept candidats commando seraient morts suite à des bastonnades des militaires instructeurs commando. L'un de ces sept militaires qui sont morts alors qu'ils étaient en formation commando était un lieutenant de la 47e promotion de l'ISCAM qui venait de terminer sa formation académique en Russie. Des sources de la radio Inzambagatea Kawe auprès des militaires du 211e bataillon commando de Gitega font savoir qu'ils ont été victimes de la brutalité des instructeurs commando d'aujourd'hui qui ne sont pas professionnels.
Nous sommes inquiets de voir ce qui se passe aujourd'hui avec l'instruction commando. Après une semaine de formation, six candidats commando sont morts. Les autres commandés sont devenus comme un abattoir. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus des instructeurs qualifiés. Il y a seulement des instructeurs qu'on appelle tchindjiri. Pour eux, à formation, c'est le traumatisme par coup de bâton. Imaginez-vous un être humain qui frappe l'autre au niveau de la tête et fait mal à l'oreille. Du sang et un autre liquide coule à l'oreille. Quel est son genre d'instruction?
Ces militaires demandent au commandement des forces de défense nationale du Burundi, au chargé des opérations G3 armées, au chef de service de santé des CS d'apporter une attention particulière à cette question des instructions commando.
Nous demandons au G3 de suivre de près cette situation parce que cette session commando est la première qui enregistre Jean Dobika de cette candidat après une semaine de formation. Ils ont menti les familles que c'est la pandémie du Covid-19 qui les a emportés. Ceux qui pourront donner des informations sincères sont le personnel soignant. Ce sont eux qui ont vu et qui ont eu horreur des gémissements des militaires mourant suite au traumatisme et des battants. Nous demandons au DSS d'exiger l'examen général des candidats commando avant le début de chaque session commando.
Après la mort de ces sept candidats, la formation commando a été suspendue depuis plus d'une semaine pour pouvoir remédier à cette question parce qu'il y a d'autres candidats arrêtés à cause du traumatisme des instructeurs commando. La rédaction radio Inzambagatea Kawe a tenté de joindre par téléphone le collègue Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée, pour éclairer l'opinion sur cette situation liée à l'instruction commando, mais sans succès.
Merci Georges Nimenya. Les responsables du centre commando de Gitega devraient répondre en premier lieu à leurs actes dans la mort de ces sept candidats commando tués dernièrement au cours d'une formation commando. C'est l'explication de méthode Nzegama Sabo, ancien officier commando et spécialiste en droit international. Il ajoute que les instructeurs du centre devaient être suivis, chacun selon sa responsabilité devra aussi répondre de leurs actes conformément à la loi.
Je préciserai ici que dans la formation commando, il y a des instructeurs, généralement ce sont des hommes de troupe ou alors des sous-officiers, quelques officiers aussi, parmi lesquels se trouve justement le commandant de la section commando en cours. Chacun, selon la part qu'il aurait jouée dans cet incident, doit évidemment être puni sur le plan pénal. Il y a aussi le plan administratif. Comme généralement ces incidents découlent soit d'une négligence, soit d'un acte délibéré, de même que pour le volet pénal, chacun doit également assumer sa responsabilité. Et là, la rigueur tombe surtout sur les chefs parce qu'ils sont censés surveiller au quotidien le déroulement de ces activités commando. Et si une bavure comme celle-là, ils doivent évidemment en répondre. Il peut également, du moins dans certains pays développés, y avoir une responsabilité politique qui pousse le ministre de la Défense à la démission. On n'est pas encore à ce stade au Burundi. Il est vrai que les mandats sont très éprouvants. Il est vrai que les candidats peuvent rechigner à exercer certains exercices. Les instituteurs doivent trouver des moyens de pression, des moyens d'amener les candidats à faire ces exercices sans nécessairement porter atteinte à leur intégrité physique et encore moins à leur ôter la vie. Je pense que ça, c'est vraiment un scandale. Je me dis que les autorités militaires ainsi que les autorités politiques vont tout faire pour ramener la formation commando à son objectif noble, qui est la formation sans blesser, sans porter atteinte à l'intégrité physique des candidats commando.
Et dans le domaine des droits de l'homme, les réfugiés burundais vivant dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie vivent toujours dans une psychose de peur et d'inquiétude de se voir chassés du pays par force. Mardi, il y a eu une visite. Les autorités tanzaniennes qui sont venues dans le camp constater si le travail de destruction des champs de ces réfugiés a été bien effectué. Les détails avec Vanessa Mouiteka.
Selon des sources concordantes émanant de son camp de Nyarugusu, c'était vers 10h du matin quand ces réfugiés ont remarqué l'arrivée dans le camp de plusieurs autorités tanzaniennes. Ces dernières venaient rencontrer les responsables du camp dans un endroit appelé Makazi.
Nous sommes vraiment fatigués. Ne comprenons pas ce qui nous arrive. Par exemple, ce mercredi, on a vu une délégation qui est arrivée chez Makazi et cette délégation a commencé à visiter le camp en constatant comment nos champs ont été détruits et ils ont dit qu'il faut plutôt déraciner ce champ puisque les réfugiés burundais n'ont pas le droit d'y vivre.
Ces réfugiés déplorent ce qu'ils qualifient d'abus graves à leur rencontre et demandent à la communauté internationale de trouver une solution face à cette situation.
Nous sommes attristés par ce qui se passe ici en Tanzanie, en présence de la communauté internationale. Nous demandons si les réfugiés vivant en Tanzanie ne sont pas protégés par les droits des réfugiés. Nous demandons que la communauté internationale contribue pour que les droits des réfugiés
Même le matin de son mercredi, les agents de sécurité en collaboration avec les Bazungu Sungu ont continué la destruction des champs des réfugiés situés dans la zone 13 de son camp de Nyarugusu. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version des responsables du camp de Nyarugusu pour donner la lumière sur cette situation qui inquiète les réfugiés.
La coalition des diasporas burundaises d'Europe, FODIB, se dit fortement inquiète de la persécution dont sont victimes ces derniers jours les réfugiés burundais vivant dans les camps de Tanzanie. Le FODIB condamne le comportement des autorités tanzaniennes qui maltraitent ces réfugiés en violation des lois internationales en la matière qu'elle a ratifiée. Il demande au gouvernement tanzanien et au ACR de tout faire pour traiter ces réfugiés burundais avec dignité. Écoutez Oscar Butare, président du FODIB.
Le FODIB suit avec amertume la situation calamiteuse des réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Ces derniers sont souvent malmenés et expropriés par les autorités tanzaniennes qui veulent leur pousser par force à rentrer au Burundi. Le FODIB tient à rappeler que la Tanzanie est état partie à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. En faisant cela, la Tanzanie viole cette convention au vu et au su de tout le monde. Le FODIB déplore le fait que le ACR et la communauté internationale gardent en silence complice si pas coupable face à cette situation. Si ceci est fait de connivence avec le gouvernement de Gitega, le FODIB demande plutôt à ce dernier à s'attaquer aux raisons qui ont poussé les Burundais à prendre le chemin de l'exil. Le FODIB demande aux autorités tanzaniennes à cesser immédiatement ces pratiques contraires à la convention dont la Tanzanie a elle-même ratifié. Le ACR doit faire son travail et protéger ces réfugiés burundais contre toute action allant contre les droits des réfugiés.
Pourquoi faut-il se faire vacciner ? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Dans le chapitre de l'éducation, la coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et la défense des droits socio-professionnels, COSESONA, a lancé le vendredi un préavis de grève suite à la décision du ministère de l'Éducation de forcer les démarches de faire passer un test de choix des candidats au recyclage. Le porte-parole du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique avait déclaré le jeudi dans un communiqué qu'aucun enseignant ne sera renvoyé de la fonction publique, quelle que soit la note obtenue dans ce test. Suivez Liboire Guilmana, porte-parole du ministère de l'Éducation.
Ce recyclage concerne environ 30 000 enseignants de premier cycle, c'est-à-dire de la première à la sixième année du fondamental. Un test pour détecter les forces et les faiblesses de chaque enseignant par matière sera organisé à cet effet. À ce sujet, le ministère tient à tranquilliser les enseignants qui seront concernés par l'audit test que ce test sera organisé pour uniquement cerner les forces et faiblesses remarquées en vue de permettre au ministère de concevoir des modules de formation pour remédier aux faiblesses constatées dans l'une ou l'autre matière. En outre, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique tient à tranquilliser le public en général et les enseignants en particulier qui passeront le test, que la note obtenue sera encodée et ne sera divulguée à personne et que, a priori, aucun enseignant ne sera renvoyé de la fonction publique, quelle que soit la note obtenue. Le recyclage sera assuré par les enseignants ayant participé au test comme les autres, mais ayant obtenu la meilleure note plus que les autres, étant donné que le ministère de l'Éducation nationale de la Recherche scientifique est convaincu qu'il y a beaucoup d'enseignants qui possèdent un très haut niveau de compétences.
De l'avis de Ladini Widzi, ancienne présidente du syndicat des travailleurs de l'enseignement STEB et activiste du droit à l'éducation, l'organisation des tests de niveau pour les enseignants en activité est une pratique non productive et fait remarquer que la procédure du ministère de l'éducation est injuste parce qu'elle n'est prévue nulle part dans la loi. On l'écoute.
Au niveau du gouvernement du Burundi, il y a une disposition du statut des fonctionnaires qui prévoit le perfectionnement des travailleurs. Et cette disposition sur le perfectionnement des travailleurs en ce qui concerne le contenu des formations, en ce qui concerne les modalités d'organisation, ces dispositions n'ont jamais été appliquées. Mais ce qui concerne l'évaluation des travailleurs en fonction, dans le sens de leur donner une formation permettant de confirmer leur affectation, cela est une façon qui a été appliquée dans certains pays pour éliminer les enseignants anciens, éliminer les travailleurs anciens, parce que le gouvernement veut sûrement réduire la masse salariale et maintenir en fonction les plus jeunes qui n'auront pas été soumis aux mêmes conditions que les plus anciens. Et la recommandation, c'est que le gouvernement du Burundi arrête cette procédure, cette évaluation des enseignants conduisant à leur donner une formation et laquelle formation peut conduire à l'élimination et même à la démission de l'enseignant. Il faut qu'ils respectent les statuts des fonctionnaires, que ces examens soient organisés pour les fonctionnaires et non pas seulement pour les enseignants, mais aussi qu'ils procèdent à une séance de négociation, de dialogue entre le gouvernement et les syndicats pour qu'ils analysent les causes profondes de la dégradation de l'enseignement et que le remède contre la dégradation de l'enseignement soit donné à partir de la racine, à partir des causes profondes. Sinon, il serait injuste de soumettre un tel examen aux enseignants seulement.
Elaline Widzi, ancienne présidente du syndicat des travailleurs de l'enseignement au Burundi, STEB. Et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal des journaux, la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de la semaine. Au revoir et à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.